Bonjour à tous. C'est une immense joie de nous réunir ensemble ce matin. Un privilège, une grâce de partager la parole de Dieu et en même temps une grande responsabilité de parler de la part du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Je vous invite à la prière. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement comme j'ai été connu. Oui, Dieu de gloire, nous reconnaissons nos limites de ce que nous connaissons de toi, parce que tu es immense, tu es un Dieu grand, puissant, tu nous dépasses. Nos têtes, nos connaissances sont petites pour te saisir. Oui, nous l'avons entendu, ce n'est pas par notre sagesse ni par notre intelligence que nous pouvons partager ce qui t'appartient, mais nous voulons compter sur ton Esprit Saint, ta présence que tu as mis dans nos cœurs. Et maintenant, nous nous mettons à tes pieds, Seigneur Jésus, pour que tu puisses nous bénir, que ton Esprit Saint puisse nous guider, nous conduire, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir les miracles cachés dans ta parole. Bénis-nous, Seigneur, par ta présence. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Ces dernières semaines, nous avons partagé la parole de Dieu sur le thème du retour de Christ. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce thème sur le retour de Christ. Si vous étiez là dimanche passé, Paul nous a parlé des nouveaux cieux et la nouvelle terre que l'Éternel Dieu va créer. Il y aura une nouvelle terre où Dieu fera toutes choses nouvelles. Cette terre qui sera son habitation, Dieu lui-même vivra parmi les hommes, devenu son peuple. Une terre où Dieu essuiera toutes larmes des yeux de son peuple. La mort n'y sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance. Nous venons d'entendre ce qui se passe au Niger. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement la source de l'eau de la vie, dit le Seigneur. C'était en Apocalypse, chapitre 21, versets 4 et 6. Dieu nous promet un monde sans malédiction, où toutes sortes de souffrances sera bannies. Je vous souhaite d'y être comme je me le souhaite moi-même. C'est dans cette perspective d'un monde meilleur encore à venir que nous abordons notre sujet d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rédemption de notre corps, la libération de notre corps. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Nous lirons à partir au chapitre 8, à partir du verset 23. Jusqu'au verset 27. Romains, chapitre 8, verset 23, jusqu'au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire. Ici, Paul parle de la création, juste dans les versets qui précèdent. Et ce n'est pas la création seulement qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérant que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ici s'arrête notre lecture. Pour mieux comprendre là où nous en sommes sur ce passage, sur la rédemption de notre corps, la libération de notre corps, ça vaut la peine de commencer, du moins d'essayer de parcourir quelques versets de ce chapitre 8 pour essayer de voir dans quel voyage l'apôtre Paul nous invite. Quand on regarde au début de ce chapitre 8, qui est déjà intitulé « Une vie animée par l'Esprit », Eric, dans la présidence, quelque part, on a fait partie de cet Esprit de Dieu. Et ici, ce chapitre aussi nous parle d'une vie animée par l'Esprit. Et Paul commence par une affirmation forte, si je peux dire. Il n'y a plus de condamnation, plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. Ainsi commence ce chapitre. Mais comment ? Il explique comment, grâce au ministère du Saint-Esprit, reçu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une vie est transformée. Depuis le jour de notre conversion, le Saint-Esprit commence une œuvre extraordinaire dans nos vies. Au verset 2 et 3, c'est le Saint-Esprit qui nous libère de la loi du péché et de la mort. Au verset 4, c'est le Saint-Esprit qui accomplit en nous la loi de justice de Dieu. Verset 5 au verset 11, c'est le Saint-Esprit qui change notre nature. Verset 12 à 13, c'est encore le Saint-Esprit qui nous fortifie vers la victoire en faisant mourir en nous les manières d'agir de notre corps. Au verset 14 et 16, le Saint-Esprit est gage et confirmation de notre adoption, car c'est par lui que nous crions « Abba, Père ». C'est une vie active que le Saint-Esprit mène à ceux qui ont reçu le Seigneur. C'est une vie continue, ce n'est pas une vie d'un jour. Ici, nous arrivons à un niveau où le Saint-Esprit même nous amène à louer le Seigneur. Quand on commence à dire à nous-mêmes « Abba, Père », c'est qu'on est à un certain niveau avec le Saint-Esprit, du moins dans la connaissance, dans le cheminement avec le Seigneur. On arrive à l'adoration et à la louange. Paul voyage. Pour celui qui a reçu Christ, c'est un pèlerin, il va quelque part. Entre le verset 17 et 27, le Saint-Esprit veille et reste à nos côtés dans notre pèlerinage vers notre gloire encore à venir. Il commence à parler de la gloire pour celui qui a cru. C'est le ministère du Saint-Esprit, depuis qu'il nous a marqué un sceau, de veiller à ce que nous puissions atteindre au présent ce salut que nous avons déjà reçu, mais aussi c'est à lui de nous amener vers le cheminement de cette adoption, cette rédemption de notre salut de notre corps, la rédemption de notre corps. C'est le Saint-Esprit qui nous maintient, de manière à ce qu'il n'y ait aucune condamnation sur nous. Je l'ai dit, il nous amène quelque part, où il nous amène à être en présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus. C'est ça notre gloire dont il est question au verset 18 de ce chapitre. Au verset 19 et 23, on approche notre partie, on commence alors à nous parler des gémissements, des soupirs inexplicables pour la gloire. On vient de loin, on vient de le voir, le Saint-Esprit a travaillé dans nos vies. Nous ne sommes plus des bébés spirituels. Non, on est avec le Seigneur, il a changé nos comportements, il nous a fortifiés dans la foi. On a la louange et l'adoration pour le Seigneur, mais on arrive à un niveau où on commence à gémir, soupir, souffrir. Ces questions dont on se pose, pourquoi au Niger, pourquoi au Moyen-Orient, pourquoi la sécheresse, pourquoi je souffre dans mon corps, pourquoi ces maladies, pourquoi je perds l'être cher, pourquoi ça arrive alors que nous appartenons au Seigneur, nous soupirons. Versets 19 et 22, la création même soupire. Les amis de la nature, ils sont de quoi s'inquiéter, mais la création elle-même soupire. Des sécheresses, des tremblements de terre, les déserts qui grandissent, et on se pose la question. Et la parole de Dieu nous rappelle que toute la création elle-même a été touché par la malédiction suite au péché de l'homme dans le désert, dans le jardin d'Éden, pardon. C'est en Genèse chapitre 3, rappelez-vous versets 17 et 19, Dieu dit à l'homme, à cause de toi, toute la terre sera maudite. Donc ce n'est pas seulement nous, les croyants qui souffrent, même la terre souffre, la création soupire aussi, à une gloire à venir. Alors nous arrivons à notre partie de ce matin, verset 23. Mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes. C'est les gémissements, c'est les soupirs des croyants qui commencent à goûter à la gloire à venir, mais qui souffrent. Le croyant aspire à la gloire, comme si notre homme intérieur commence à sentir quelque chose qui sent bon, qui nous attend. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. Oui, nous aussi, les croyants, nous gémissons parce que nous sommes sous la condamnation et la condition de la malédiction. Nous gémissons sous la douleur. Conséquence est du péché. Nous gémissons à nous-mêmes, même si nous avons le fruit de l'esprit. Ça fait mal. Notre corps nous fait mal. L'apôtre Paul, au chapitre 7, verset 24, il dit ceci. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. » Et pourtant, c'est Paul. Et pourtant, c'est un apôtre du Seigneur. Mais lui aussi, il crie, qui me délivrera de ce corps de mort. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire, nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oui, nous gémissons parce que nous sommes toujours sous les conséquences du péché face à des situations d'insatisfaction, je les ai dit, des maladies, des souffrances, de la mort, face à toutes les œuvres de la nature humaine. dont nous connaissons, qui se trouve en Galates, chapitre 5, verset 19-21. Tout ce paquet qui est lié à nos corps. Nous gémissons dans nos corps parce que nous participons à la condition humaine déchue à cause du péché originel commis au paradis par notre ancêtre Adam. Il y a un écrivain, Jean-Claude Lachey, qui a écrit dans son livre « La théologie de la maladie ». Il a bien résumé l'origine de nos maux. C'est donc dans la seule volonté personnelle de l'homme, dans l'usage qu'il a fait de son libre arbitre, dans le péché qu'il a commis au paradis, qu'il faut chercher la source des maladies, des infirmités, des souffrances, de la corruption et de la mort, comme de tous les maux qui affectent actuellement la nature humaine. J'ai trouvé qu'il a bien résumé ce monsieur. Notre nature charnelle est la source de nos souffrances. Cette liberté que l'homme, le premier homme, a utilisée en libertinage, comme disent les uns, est la source de nos souffrances. Nos corps et leurs désirs sont toujours présents. Il nous empêche d'entrer dans la gloire auprès du Seigneur ressuscité. L'apôtre Paul nous met en garde au chapitre 6 de ce épître aux Romains, versets 12 et 13. Il rappelle que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments d'injustice. C'est que ces maladies, les désirs du corps sont toujours là. Ils nous affaiblissent, ils nous empêchent de saisir ce que le Seigneur a déjà prévu pour nous. Ils nous empêchent de rencontrer notre Seigneur. Et l'apôtre Paul va plus loin et montre même combien l'homme est prisonnier de sa nature pécheresse et n'est plus maître de ses choix. Encore dans ce livre, cet épître aux Romains, chapitre 7, au verset 14 et 15, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » On dirait qu'il est dur. Paul en disait cela. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. On dirait que nous sommes vraiment perdus, nous avons perdu la connaissance. L'homme est privé de sa liberté de choisir à cause du péché qui est ancré dans sa nature humaine. Certes, notre âme, notre homme spirituel a été sauvé de la condamnation, mais notre corps et notre nature humaine restent un problème. Nous avons reçu l'adoption de notre âme, mais nous attendons l'adoption de notre corps. Oui, nous sommes maintenant les enfants adoptifs de Dieu, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la manifestation complète digne des enfants de Dieu à l'image de Christ ressuscité. Rappelez-vous ce que 1 Jean nous dit, 1 Jean chapitre 3, au verset 2, confirme, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça c'est fait, c'est acté à la croix. Christ est ressuscité, celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur a reçu le droit d'être appelé enfant de Dieu. C'était un fait. L'homme intérieur a été sauvé. Mais Jean continue, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous continuons notre combat. Nous continuons à lutter dans nos corps. Mais nous savons que, ce qu'il nous dit dans ce passage, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, tel que, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque Christ apparaîtra, c'est ça notre gloire. C'est à cela que nous aspirons, voir Christ face à face. En effet, nous gémissons, nous soupirons à nous-mêmes, parce que nous savons que nous avons été sauvés, adoptés, justifiés pour Dieu par l'œuvre de Christ à la croix, marqués par son esprit, mais nous attendons cette adaptation nécessaire de notre corps pour être en présence de notre Seigneur lorsqu'il apparaîtra. Il y a encore un travail à faire, non pas par nous-mêmes. Verset 23, la deuxième partie de notre partie, nous sommes toujours au chapitre 8, verset 23b, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Il y a encore une libération qui doit s'effectuer. Dans la lutte avec notre nature charnelle, nous attendons un rédempteur. Jésus-Christ. Je vous invite à prendre l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous lirons quelques versets qui nous font entrer dans cette espérance. Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21, et le premier verset du chapitre 4. Il y a de l'espérance. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 2, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Quant à nous, notre cité est dans le ciel. Et dans le ciel. C'est pour cela que nous gémissons. Nous sentons l'homme intérieur sauvé qui a goûté à la bonté de Dieu dans l'adoration et la louange commence à sentir quelque chose. Commence à sentir, même si nous nous accrochons à cette terre, que nous sommes de passage ici, que nous allons quelque part. Notre cité est dans le ciel, d'où nous attendons le Sauveur. Et quand il viendra, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Le Seigneur Jésus, dans sa puissance et son autorité, nous accordera la libération de notre corps. Ça, telle est notre espérance, telle est notre gloire, que le Seigneur mettra fin à tout ce paquet de déchets corporels dont j'ai cité et que Galates 5 nous cite également. Nous avons l'espérance que le Seigneur transformera nos corps. Mais alors, la question qui peut se poser, de quelle forme aura notre corps transformé? De quelle forme? Ici, l'apôtre Paul n'a pas été en détail. Ça laisse porte ouverte à notre imagination selon nos goûts de ce que nous allons porter. Un corps qui aimera toujours les frites et mayonnaise, je ne sais pas. Un corps qui sera toujours adorable et du foufou. La parole de Dieu ne le dit pas. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, après avoir expliqué comment Jésus-Christ nous précède dans sa résurrection, il nous livre les qualités de ce qui sera notre corps réformé. Je vous invite, 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire quelques versets. Et là, quand même, nous trouverons les qualités que nous allons porter dans le nouveau corps que Christ va nous donner. Nous lirons juste verset 3, à partir du verset 35 jusqu'à 38 et 42 à 44. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sommes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Est-ce que ce que tu sommes n'est pas la plante qui poussera? C'est une simple graine, un grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Au verset 38, « Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ce que nous savons, c'est que le Seigneur transformera notre corps, mais il le donnera la forme qu'il voudra. » L'apôtre Paul continue au verset 42, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Lorsque nous serons dans la nouvelle, nouveau corps que nous allons recevoir, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voilà ce qui devrait être notre sujet de joie. Je ne m'inquiète pas de quelle sorte de corps que j'aurai. Mais ce qui me réjouit, c'est que le nouveau corps que Christ va te donner, va me donner, ça sera un corps incorruptible, ça sera un corps glorieux, ça sera un corps plein de force, ça sera un nouveau corps spirituel, capable et prêt de voir Jésus. Ça sera un corps merveilleux. C'est fini les douleurs, c'est fini les maladies, c'est fini les cancers, c'est fini ces désirs corporels, ça sera fini. Il n'y a plus de place dans ce corps que Christ va nous accorder. Un sujet de joie pour nous, ça sera terminé. Ces souffrances que nous subissons dans notre corps, ces peurs, de cette nature charnelle qui nous échappe des fois, ça sera terminé. Si nous retournons dans notre texte, chapitre 8, verset 24, Paul continue en nous rappelant aussi, nous qui sommes pèlerins, le moteur de notre force. En effet, c'est en espérant que nous avons été sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Paul nous rappelle que nous avons été sauvés dans l'espérance. Ces choses dont nous parlons, nous les saisissons comme les choses qui vont venir. C'est ça qui est notre force. Et cela, nous devons nous rappeler tous les jours. Une vie chrétienne sans espoir, c'est une vie chrétienne morte. Nous espérons que celui qui nous a promis qu'il est parti nous préparer, qu'il y a des demeures dans sa maison, dans la maison de son père, qu'il y a plein de demeures, qu'il va les préparer pour nous, et qu'il viendra nous prendre, nous saisissons cette parole comme une vérité et nous la vivons chaque jour. Nous avons été sauvés dans l'espérance. Nous espérons que ce que nous dit la parole de Dieu est vrai. Et nous saisissons ces choses par la foi, dans l'espérance. Oui, je verrai le Seigneur. Oui, la souffrance aura une fin. Oui, Christ viendra te chercher si tu lui appartiens. Oui, Christ transformera ton corps et te donnera un corps spirituel. Et ces choses, on les saisit dans l'espérance. C'est pour cela que nous gémissons. Notre être qui a été sauvé de l'intérieur, il gémit, il souffre, il saisit, il va prendre, mais pour le moment, il ne peut pas saisir. Ce qui lui a été promis est vrai. Nous avons été sauvés dans l'espérance, sans laquelle nous ne pouvons pas saisir les promesses du salut. La rédemption de notre âme déjà actée à la croix ainsi que la rédemption de notre corps sont à venir. Nous devons l'attendre, mais ça viendra. C'est dans l'espérance que nous saisissons ces choses. Dieu va le faire. Et l'espérance nous appelle à la persévérance. Soyons patients. Dieu n'a pas encore terminé le travail dans mon corps, dans ton corps. Même si tu souffres, même si nous nous battons, soyons patients. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, il travaille. Ce que je sais, c'est que je verrai le Seigneur, si je reste en lui. 1 Pierre, au 1er chapitre, verset 13, « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Oui, il va venir, le Seigneur. J'y crois. J'y crois, le Seigneur Jésus viendra. Au verset 25 de notre texte, nous rappelle que l'espérance de ceux que nous ne voyons pas nous assure que le Seigneur Jésus transformera notre corps et nous rendra libres de tout monde, de toute maladie, de toute souffrance. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons encore sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayons pour casque l'espérance et du salut. » En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Nous vivions ensemble avec lui. Nous entendons le retour de notre sauveur. Nous attendons, il viendra nous chercher. Le Seigneur Jésus viendra te chercher si tu lui appartiens. Il y a encore une bonne nouvelle au verset 26. Reviens, si je peux dire, quelque part. Case de départ où c'est Dieu qui nous fortifie. Au verset 26, qu'est-ce qu'on nous dit ? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Quelle consolation ! Une grande joie, un encouragement dans notre pèlerinage vers le ciel. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu nous vient en aide dans nos faiblesses. L'Esprit de Dieu te vient en aide dans tes faiblesses. Ne l'oublie pas. Ne l'oublions pas. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, nous dit la parole de Dieu, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. On l'appelle le consolateur. Lorsque les jours deviennent difficiles, lorsque la chair nous fait mal, lorsque je me bats avec telle faiblesse et que je continue de persévérer dans la prière, que je me rappelle, que tu te rappelles encore que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit t'a été donné. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. C'est notre conseiller, c'est notre défenseur. Il veille avec nous. Il nous encourage. Nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement vers le ciel. Oui, nous soupirons. Oui, nous gémissons. Mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu veille sur nous. Pour résumer de ce que nous venons de voir, nous l'avons vu au début de ce chapitre 8, le point de départ, c'est Christ. Il faut s'assurer qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est lui le point central. La relation avec Dieu passe par lui. Connaissons ces passages qui nous disent que nous n'avons aucun autre nom dans lequel nous devrons être sauvés. Les Actes des deux apôtres, chapitre 2. L'évangile de Jean nous rappelle, premier chapitre, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, la parole venue d'en haut, Christ lui-même, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils ne sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté des maris, mais ils sont nés de Dieu. » Ça passe par Christ. Et toutes ces choses dont on parle, cette espérance, cette présence du Saint-Esprit, ça ne tient pas si tu n'as pas été à la croix, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Ça passe par Christ. La repentance de nos péchés et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà où commence cette relation. Et le jour où on l'accepte, alors le Saint-Esprit te prend la main. Vous partez ensemble. Durant nos gémissements et nos soupirs face aux douleurs dans nos corps, prenons courage. Rappelons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Le Saint-Esprit nous accompagne. Nous venons de le voir, on l'a répété, il est là, il nous accompagne même dans les faiblesses, même dans les souffrances, il est là, il est toujours là à tes côtés. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le pasteur Timothy Keller, dans son livre « Les idoles du cœur », il a écrit ceci, « Il nous est impossible de connaître toutes les raisons qui font que Dieu autorise que nous passions par des moments douloureux. Mais tout comme Jésus, nous pouvons lui faire confiance dans ces moments-là. Nous pouvons faire confiance à Dieu, lui qui accepte que nous pouvons traverser des moments difficiles. Nous pouvons lui faire confiance qu'il nous apportera du secours. On se bat, on va au ciel, c'est difficile. Tu dois abandonner ce qui ne plaise pas le Seigneur. Le Saint-Esprit t'encourage jour après jour. Sache que tu n'es pas seul. La chair te fait mal. Il y a des maladies que les médecins ne savent pas mettre un nom. C'est pas grave. Fixe le regard sur le Seigneur. Ça, c'est notre point du résumé. Nous fixons notre focus sur le Seigneur. Nous gardons nos regards fixés sur notre Sauveur. notre Rédempteur, se lèvera le dernier, comme disait Job. Le Seigneur Jésus viendra. Il est notre espérance. Il nous a promis de revenir et de nous prendre avec lui afin que là où il est, nous y soyons nous aussi. Ça, c'est la promesse que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les trois premiers versets. Le Seigneur promet qu'il viendra nous prendre avec lui pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Telle est notre espérance, voilà pourquoi nous résistons, nous prenons la persévérance, même dans la douleur, même si notre corps ne veut pas, mais nous prenons courage parce que le Seigneur est notre espérance. Et pour conclure, Paul écrit aux Philippiens au chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'où ? Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Waouh ! C'est une bombe dans nos cœurs. Ça réchauffe nos cœurs. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre du salut, qui nous a donné le salut spirituel de l'homme intérieur, il nous accordera aussi le salut corporel jusqu'aux terres. Il l'offrira le Seigneur. L'objectif, c'est que notre gloire, c'est de le voir face à face et être avec le Seigneur. Je vous invite à la prière. Oh, que tu es merveilleux, Dieu de bonté. Nous voulons encore te dire un merci. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous as donné tout, tu nous as donné Christ. En lui, nous avons été sauvés. Tu nous as donné cette identité de t'appartenir. Oui, nous sommes les enfants du Très-Haut. Nous ne sommes plus étrangers dans ton royaume, mais nous sommes les enfants qui mangent à ta table parce que tu as sauvé nos vies. Merci Seigneur, merci parce que tu nous amènes quelque part. Tu ne nous as pas laissés tout seuls, tu nous as donné ton esprit. Merci pour ta présence qui nous change jour après jour, qui nous apporte du secours éternel. Ce matin, nous voulons encore te présenter nos corps. Nous voulons encore te présenter ceux qui souffrent parmi nous, ceux qui sont fatigués par la chair, que dans ta miséricorde et ta bonté, tu puisses manifester ta grâce, tu puisses encore nous ressourcer par ta présence, que nous puissions encore sentir ta voix qui nous dit que tu es là, qu'ils ne sont pas seuls. Tu vois ceux qui se battent à cause de ces désirs charnels, Seigneur, que dans ta miséricorde et ta bonté, tu étends ta main, tu puisses nous toucher, toucher ceux qui souffrent à cause des faiblesses de la chair, que tu puisses nous délivrer parce que tu es capable de le faire. Oui, Seigneur, merci parce que tu es notre espérance. Oui, veille sur nous, sur notre foi, et que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses continuer à nous parler, que notre espérance croisse, grandisse encore et encore. Laisse-nous encore te toucher spirituellement. Laisse-nous encore te sentir et te saisir. Laisse-nous encore, Seigneur, de sentir ta présence dans nos vies de tous les jours et que toi seul tu puisses être glorifié dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen.